Qu'est-ce que c'est que la vérité si la vérité est celle d'un Dieu vivant ?
Rappelle-toi les jours d'autrefois. Considère les années, de génération en génération. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes anciens, ils te le diront.
Et en même temps, il dit quelque chose du « c'est bon la vie, c'est beau ».
Ézéchias fortifia sa ville et fit venir l'eau dans ses murs. Avec le fer, il fora le rocher et construit des citernes. L'Ecclésiastique. Chères auditrices, chers auditeurs, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de l'émission « Au commencement était la fouille ». Après l'épisode qui nous avait emporté dans l'antique Megiddo, je vous propose aujourd'hui de nous diriger vers la capitale de la Palestine, Jérusalem, et plus précisément dans les sinueux couloirs du tunnel d'Ézéchias. Le petit passage que vous venez d'entendre est extrait de la Bible. L'Ecclésiastique, chapitre 48, verset 17. Ce passage attribue au roi de Juda, Ézéchias, la construction d'un tunnel qui aurait transporté l'eau jusqu'à l'intérieur des murailles de la culte Jérusalem. Mais cet extrait n'est pas un isolé de la Bible hébraïque, puisque plusieurs versets de l'Ancien Testament décrivent des travaux hydrauliques menés par Ézéchias. Mais archéologiquement, qu'en est-il ? Eh bien, je pense que pour y répondre, un grand détour s'impose. Pour commencer, qui est Ézéchias ? Ézéchias est un roi de Juda qui aurait régné à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Selon la Bible, son règne aurait duré 29 ans et aurait été marqué par les invasions assyriennes dans le royaume israélite du Nord. Ézéchias, lui, aurait entre autres préparé Jérusalem au siège du roi d'Assyrie, Sennachérib, en renforçant les murailles et en sécurisant l'eau. En vérité, si cette interprétation repose sur des passages bibliques, elle n'en est pas moins contestée dans le milieu de la recherche. Tout d'abord, la datation de la construction du tunnel fait objet de controverse. En effet, rien ne nous garantit qu'il s'agit là d'une œuvre du roi Ézéchias, réalisée à la veille du siège assyrien de 700 avant Jésus-Christ. Le tunnel pourrait tout à fait être l'œuvre d'un chantier antérieur. Les textes attribuant la réalisation du tunnel à Ézéchias sont les suivants. Le deuxième livre des rois, chapitre 20, verset 20, le deuxième livre des Chroniques, chapitre 32, des versets 3 à 5, Isaïe aussi, au chapitre 22, verset 11, et Siracide, que nous avons lu, chapitre 48, verset 17. Tous décrivent des travaux hydrauliques menés par Ézéchias. C'est l'exemple du deuxième livre des Chroniques. Il, Ézéchias, tint conseil avec ses officiers pour obstruer les sources d'eau à l'extérieur de la ville. Mais comme je le disais, cette datation est débattue, puisque si la tradition biblique attribue le tunnel à Ézéchias, des fouilles récentes suggèrent une date antérieure, fin 9e ou début 8e. Le chercheur Finkelstein, lui, conteste cette hypothèse, préférant une datation dans les années 730-720, lors d'un élargissement de la ville. Il existe donc deux lectures historiques du contexte. Une lecture classique, le tunnel serait un projet défensif contre la Syrie lancé dans un contexte d'insoumission. Et une lecture isolée, celle de Stéphanie Dallet, une assyriologue britannique réputée, spécialiste du Proche-Orient ancien. Selon elle, Ézéchias serait resté un allié secret de la Syrie. Le tunnel n'aurait pas eu de but défensif. Elle pense même qu'Ézéchias aurait été une sorte d'agent secret de Sennachérib auprès des Philistins. Bon, puisque toute cette histoire est difficile à décortiquer, je vous propose que nous retournions au commencement de ce que nous savons. Quand Jérusalem n'existait pas encore, il y avait une source qui sortait au pied du versant oriental de la colline d'Ophel, aujourd'hui située au sud du mont du Temple. Ses eaux coulaient au sein d'une vallée qui sera plus tard nommée vallée du Guédron, une vallée dont le Talweg était alors particulièrement plus profond. Cette source passait à la pointe sud-est d'Ophel, au confluent de trois vallées, celle du Cédron, celle dite du Tyropoéon et celle dite du Hinnom, pour aller se jeter par la suite dans la direction de la mer Morte. Cette source est sans doute le prétexte principal d'une première installation humaine sur ce terrain. D'après l'archéologue Charles Clermont-Ganneau, cette source qui, je cite, « fut le noyau du premier établissement humain sur ce terrain », la question de l'eau étant comme toujours, et surtout en Palestine, la question vitale et la raison décisive qui préside à la naissance des cités. C'est ce lieu, a priori conquis plus tard par David, qui s'étendit peu à peu et devint la Jérusalem historique. Mais ce n'est pas tout, car il se trouve que le côté oriental de la colline d'Ophel a été fortifié, protégé par un mur d'enceinte, mur qui, pour des raisons stratégiques, devait se maintenir sur la hauteur, ce qui laissa par conséquent la source en dehors, sortant ainsi au pied de la colline et continuant à déverser ses eaux dans le Cédron. De fait, pour y puiser, les habitants devaient sortir de l'enceinte, s'exposant à la menace ennemie en cas de siège de la cité et permettant également aux assaillants de se ravitailler dans la source. Il fallait donc remédier à ce problème. C'est pourquoi il y eut la construction d'un chemin ouvert. On ne sait pas trop quand exactement. Il partait de l'intérieur de l'enceinte et permettait d'avoir accès à l'eau, à l'abri des regards des assiégeants. C'est en tout cas ce que semble représenter le curieux système de puits et de galeries horizontales découvert en 1868 par le lieutenant Warren des Royal Engineers. Un système complexe partant de la source et s'enfonçant à l'ouest en remontant les flancs d'Ophel jusqu'à une distance encore inconnue, l'exploration étant très dangereuse et n'ayant pu être poussée que jusqu'à un certain point. Il semble en tout cas que la direction tendent vers le mur d'Ophel, qui descendait de l'angle sud-est du Haram jusque vers l'extrémité sud de la colline. En suivant sensiblement le tracé du sentier actuel, il est clair que le chemin couvert devait passer sous le mur et aboutir à l'intérieur de l'enceinte. Pour sûr, ce chemin était un grand progrès, mais il persistait toujours une problématique. La source continuant de perdre ses eaux dans le Cédron, les assaillants pouvaient en profiter pour se ravitailler, ce qui leur permettait de s'installer plus durablement. Dès lors, il fallut une nouvelle idée. Et cette idée fut de créer un canal de dérivation creusé dans le roc et en partie à ciel ouvert. Il s'esquissait à la source, passait à mi-flanc du versant oriental d'Ophel et se déversait à l'extrémité sud de la colline dans une grande piscine. Ce canal a été découvert par les fouilles de Konrad Schick, un archéologue allemand. Grâce à ce canal, les habitants pouvaient emmagasiner sans souci beaucoup, beaucoup d'eau. Mais malheureusement, le surplus continuait toujours de s'écouler dans le Cédron et, en cas de siège, devenait disponible pour l'ennemi. Sans compter que celui-ci pouvait facilement couper un canal que rien ne protégeait efficacement, puisqu'il passait en dehors du mur d'enceinte, à plus de 100 mètres à l'est, et était sur certains points presque à fleur de terre. Auditrice, auditeur, c'est enfin là que naît le projet de boucher complètement l'issue naturelle de la source dans la vallée du Cédron et de créer un nouveau lit à son cours. Un lit profondément souterrain, consistant en une longue galerie qui, creusée dans le rocher, passerait sous la colline d'Ophel et permettrait de déverser la totalité de la source de l'autre côté de cette colline, sur le versant occidental. Là, il était facile de la recueillir dans deux ou trois piscines étagées à l'intérieur de l'enceinte. De cette façon, le débit de la source devait être à peu près complètement soustrait aux atteintes d'une armée et demeurer à l'entière disposition des assiégés. Et c'est ce fameux tunnel que nous appelons tunnel d'Ézéchias. Il nous faut aussi noter une importante découverte ayant eu lieu en juin de l'année 1880. Un jeune garçon, élève de Konrad Schick, découvre au hasard, par une glissade dans les eaux du tunnel, au débouché de l'aqueduc souterrain, des lettres gravées superficiellement, alors qu'une grande partie de la surface inscrite de la roche se trouvait encore sous l'eau. Schick ne tarda pas à en mesurer l'importance et fit rapidement une annonce auprès du Deutscher Palestina Verein et du Palestine Exploration Fund, dans laquelle il publia un rapport. Cette inscription hébraïque en caractère phénicien constitue un texte précieux, gravé sur le roc, relatant succinctement la façon dont les ouvriers ont procédé pour réaliser ce tunnel. Elle nous apprend ce que l'analyse du tunnel démontre, c'est-à-dire que le percement dans le roc de ce canal, de plus d'un demi-kilomètre de longueur, fut exécuté par deux équipes de mineurs qui, partis des deux extrémités opposées et marchant à la rencontre l'une de l'autre, finirent après quelques tâtonnements par se rencontrer sous la colline, environ à moitié chemin. Voici l'excavation. Or, voici l'histoire de l'excavation. Tandis que les ouvriers levaient la hache, chacun vers son voisin, et qu'il restait encore 3 coudées à couper, chacun entendit la voix de l'autre qui appelait son voisin, car il y avait un excès dans le rocher à droite et à gauche. Et le jour de l'excavation, les ouvriers frappèrent, chacun à la rencontre de son voisin, hache contre hache, et l'eau coula de la source à l'étang sur 1 200 coudées. Et la hauteur du rocher au-dessus des têtes des ouvriers était 1 coudée. Et il est bien beau de se dire que les archéologues sont tombés sur un message que les ouvriers ont sans doute eux-mêmes tenu à transmettre à la postérité. Auditrice, auditeur, désormais vous l'aurez bien compris, faire de la recherche en archéologie, c'est comme aller au culte. On en repart toujours avec plus de questions que de réponses. Mais j'ai envie que nous poussions le vice encore plus loin. Si nous décentralisons un peu le propos, tout en restant axés sur l'histoire de la Palestine, nous tombons tête la première dans un problème archéologique majeur, la localisation de la nécropole royale. En effet, la sépulture des rois de Juda, et en particulier celle de David, demeure un grand mystère archéologique. Une question complexe sur laquelle s'est penché un archéologue épigraphiste et orientaliste français, Charles Simon Clermont-Ganneau, un nom à rallonge. Né en 1846 et mort en 1923, il est notamment membre du Consulat général de France à Jérusalem et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. À partir de 1865, l'Académie des inscriptions et belles-lettres assure la publication de compte-rendu des séances de la compagnie, dont les 3 grands domaines de recherche sont l'archéologie, la philologie et l'histoire. Et c'est ainsi qu'est publié, au sein du compte-rendu des mois de juillet et d'août de l'année 1897, un article de Simon Clermont-Ganneau. Les tombeaux de David et des rois de Juda et le tunnel aqueduc de Siloé. Ah ! Voici réunis notre tunnel et la mystérieuse histoire des tombeaux. Et c'est ce que nous allons étudier. Clermont-Ganneau ouvre son étude par un constat d'échec. Malgré les traditions et les efforts, l'emplacement des tombeaux reste inconnu. Ainsi s'exprimait notre chercheur. La découverte de la nécropole royale où furent ensevelis David et la plupart de ses successeurs constitue, à mon sens, le problème capital de l'archéologie hébraïque. Il place donc ce problème au centre de la recherche sur la Jérusalem ancienne. Le prestige des figures royales bibliques donne à cette question une portée politique, religieuse et scientifique. Le manque de preuves tangibles l'oblige à explorer des hypothèses, notamment géographiques. En vérité, le cœur de l'article pourrait se résumer en quelques mots. Le rejet d'une tradition. Une tradition chrétienne et byzantine qui focalise les tombeaux de David et des rois de Juda sur le mont Sion, actuel mont Sion à l'ouest de Jérusalem. Clermont Ganneau considère cette attribution comme tardive et non fondée, sans aucune valeur archéologique. Et son argumentation repose sur trois principes. D'abord, le mont Sion, tel qu'il est nommé aujourd'hui, ne correspond pas forcément à celui des textes bibliques. Ensuite, les traditions chrétiennes datent de plusieurs siècles après l'époque des rois bibliques. Dernièrement, aucun vestige clairement attribuable aux sépultures royales n'y a été découvert. De fait, il formule une hypothèse. Les tombes royales seraient dans le secteur de l'Ophel. Il avance que les sépultures pourraient se trouver plus bas, dans la partie appelée Ophel, entre la colline sud de Jérusalem et la source du Guion, à proximité de la cité de David, conformément à certains passages bibliques. Il écrit, je cite, « Je considère comme hautement vraisemblable que cette sépulture royale a été creusée dans le rocher même de l'Ophel. » Mais pourquoi ici ? D'abord, parce que ce site correspond mieux à la topographie ancienne de la Jérusalem de David et de ses successeurs. Et aussi, parce qu'il semble plus logique que les tombes aient été taillées dans la roche sur place, à proximité du palais royal. Enfin, en raison du fait que le terrain présente des signes d'activité ancienne, taillades, cavités, structures, qui pourraient correspondre à des tombes. Et c'est bien le tunnel d'Ézéchias qui intervient dans cette affaire comme indice archéologique. Voici son observation principale. Le tracé du tunnel d'Ézéchias, connu comme nous l'avons vu pour être sinueux et irrégulier, pourrait s'expliquer par le besoin d'éviter des zones sacrées ou inviolables, comme les tombes royales par exemple. Cet argument est stratégique. Je cite « Pourquoi cette sinuosité inexplicable dans le tracé ? Pourquoi ces détours, si ce n'est pour tourner des obstacles inviolables, les tombeaux des rois ?» Ce que cela impliquerait, eh bien, déjà que les ingénieurs qui ont creusé le tunnel devaient connaître l'emplacement de la nécropole et auraient volontairement contourné les zones sacrées. Aussi, que ce détail topographique pourrait fournir une indication indirecte mais significative sur la localisation des tombes. Cette preuve indirecte est innovante pour l'époque de Clermont-Ganneau. Elle relie connaissance technique à la sacralité des lieux funéraires.
Thank you.
résumer, il n'est pas question d'énoncer des vérités, ce dont nous sommes bien incapables. Claire Mongano critique les interprétations trop enthousiastes de certaines découvertes, comme celle des tombes sur Sion. Il exige des preuves archéologiques rigoureuses plutôt que des hypothèses basées sur des traditions ou des apparences. Une citation de l'article que je relève, c'est « Il ne suffit pas qu'une tombe soit belle ou ancienne pour qu'on y voie la tombe d'un roi. Il faut des preuves. » Et c'est là tout l'intérêt de l'article, c'est-à-dire de mettre en avant le refus des extrapolations sans fondement solide, de donner à voir la nécessité de croiser les données, en topographie, sur les textes anciens, les vestiges visibles, et d'insister absolument sur l'importance de fouilles systématiques. En conclusion, Claire Mongano ne prétend en aucun cas avoir trouvé la nécropole royale, mais il propose une hypothèse forte. Les tombeaux se trouveraient dans la zone de l'Ophel et ont été contournés par le tunnel d'Ézéchias. Il invite les futurs chercheurs à tester son hypothèse par des fouilles approfondies et à ne pas se fier aveuglément aux traditions. Il dit « Je n'entends point trancher la question, mais poser un jalon, une hypothèse plausible. » Et voilà, auditrices, auditeurs, rien n'est jamais sûr. Tunnel d'Ézéchias ou pas, stratégie militaire ou non, couloir évitant les tombes royales ou pas, qu'importe. Car je suis certain que sans mystère, nous nous désintéresserions bien vite de toute chose. Notre seule certitude est le doute. Merci pour votre écoute et je vous dis au mois prochain.